Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. On va ouvrir donc dans le livre des Actes des Apôtres et on va faire la lecture de deux textes. Un dans le livre des Actes des Apôtres et le second dans l'Épître de Pierre. Alors, on va commencer par la première proposition. Actes chapitre 17, s'il vous plaît. Et nous allons lire le verset 24 et 29. Et ensuite, nous poursuivrons dans l'autre livre que je vous ai déjà annoncé. Alors, acte 17, verset 24 d'abord. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'œuvre. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Nous arrivons au verset 29, un peu plus bas. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Voilà pour cette première proposition. La seconde, nous allons la faire dans 2 Pierre. Alors, seconde épître de Pierre, chapitre 1er et verset 16. Et voilà ce que nous lisons, ce que Pierre nous dit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Alors je pense qu'il y a matière à réflexion, parce qu'il y a un mot qui revient, c'est le mot fable, oui, qui a donné peut-être fabuleux, et on a tous une idée approximative de ce que peut être finalement une fable. Alors, on connaît naturellement les fables de La Fontaine, hein, qui est l'illustration eh bien, de certaines histoires, de certains récits, et nous voyons que on peut donner justement, puisque les disciples en parlent, enfin les écrivains de la Bible en parlent, eh bien une fable vient du latin fabulae, qui a donné tout simplement la signification de légende. Ouais, légende. Alors on sait ce que c'est qu'une légende, naturellement. Et c'est un récit imaginaire. La Fontaine fait parler les animaux, hein. Mais pour illustrer certaines choses. Et il y a un premier sens au mot fable, c'est la déformation fantaisisme des faits. Déformation fantaisiste des faits. C'est-à-dire qu'il y a là une altération, c'est pas la vérité. C'est pas finalement, eh bien, et moi je voudrais comparer les fables avec l'Écriture sainte, avec l'Évangile, avec la parole de Dieu. Et puis le deuxième sens, c'est une histoire qui est inventée. Voilà. Alors, vous avez remarqué avec moi, quand on a lu ensemble, il y a cette parole que nous avons, en effet, il est dit de ne pas enseigner des fables, des légendes, enfin, toutes sortes de choses. Lorsque nous regardons le christianisme à travers ces 2000 ans d'existence, on s'aperçoit que, en matière de légendes religieuses, en matière de fables, en matière d'histoires qui ont été racontées à travers les générations, c'est que les fables ont pris beaucoup plus d'importance que la vérité que Jésus nous enseignait. Alors moi, je voudrais pas cantonner simplement à la religion que nous connaissons bien, celle de nos pays occidentaux, mais par-delà même. Quand nous touchons quelque peu à l'islam, c'est pareil, c'est rempli de fables et d'histoires inventées. Le bouddhisme, c'est la même chose. L'hindouisme, alors là, on se perd dans un autre univers. Hein. Mais toujours est-il que on a remarqué quand il est dit ceci, eh bien justement à travers ce que nous avons sous les yeux, que ce n'est pas par des fables que l'évangile a été donné aux hommes. Jésus n'est pas une fable. Jésus n'est pas une histoire légendaire. Alors certainement que ça arrange certaines personnes, parce que pour eux, voilà, c'est très facile de mettre tout simplement un interdit et de penser que derrière tout ça, voilà, c'est simple de pouvoir se débarrasser d'une situation qui peut être embarrassante. Et l'apôtre Pierre a raison. Quand il marque encore, et on va en entendre parler ce soir, c'est que qui retient, même dans le christianisme, dans sa généralité, hein, quelles que soient les dénominations ou les appellations, on est beaucoup plus confronté à des histoires inventées, à des légendes qui sont devenues des dogmes ou des articles de foi, où les gens vont vous citer eh bien telle ou telle situation, et voilà, en raison de tel personnage, historique de la Bible, historique de l'Évangile surtout. Et on s'aperçoit que tout cela, eh bien, c'est une, en quelque sorte, on pourrait peut-être, si vous me permettez, c'est une mythologie chrétienne. Comme il y a eu la mythologie chez les Grecs, mythologie des peuples antiques, je pense à l'Égypte, mythologie, eh bien, des peuplades de Scandinaves, etc., etc., ou germaniques, enfin bon, voilà, avec des dieux, avec des déesses, avec toutes sortes d'histoires, souvent des histoires sanglantes, des histoires de combat, des histoires de lutte, hein, d'autorité, enfin toutes sortes de choses, où les gens finalement finissent à croire davantage, pourtant des peuples chrétiens, je reviens finalement sur le christianisme, et notre pays de France est plein, en Bretagne, entre autres, avec toutes sortes de choses qui ont été brodées, qui ont été mélangés avec le paganisme, avec l'occultisme, avec l'astrologie, avec toutes sortes de choses. Je vous rappelle que c'est quelque chose d'important, que l'évangile n'est pas une fable, et on en est convaincus les uns et les autres. Et on va se confronter ce soir avec toutes ces histoires, alors que ce soit des histoires populaires, passe encore. Que ce soit des histoires qui appartiennent au régionalisme, par exemple. Mais quand ça, finalement, quand ça pénétrait le christianisme, c'est une autre affaire. Parce que c'est véritablement une monstruosité. Et Pierre le dira, moi, ce n'est pas avec des fables que je vous ai annoncé l'évangile. L'apôtre Paul ne le dira pas de cette manière, mais il le dira quand même. Et on parlera de fausses doctrines. On parlera finalement d'une supplantation, eh bien, de toutes ces histoires qui quelquefois sont fabuleuses, c'est le mot, hein, magiques, extraordinaires, et qui, touchent tous les traits de la vie des hommes d'une manière ou d'une autre, avec des hauts lieux, avec des chapelles, avec des endroits, hein, comme ça se trouvait finalement dans le peuple hébreu, hein, où on adorait sous les arbres verts, hein, où il y avait des hauts lieux, où là on sacrifiait, mais on sacrifiait pas à Dieu, on sacrifiait finalement eh bien à l'occultisme tout simplement. Alors bon, ça n'a pas cours chez nous naturellement, puisque l'évangile est venu nous affranchir de tout cela. Mais peut-être qu'avant, si nous nous souvenons, pour ceux qui ont connu peut-être un autre cheminement que le cheminement évangélique ou biblique, on nous en a raconté des histoires. Des histoires à l'eau de rose. Des histoires à dormir debout. Et confronté à l'évangile, on s'est dit, non mais c'est pas possible des choses pareilles. On a lu les vérités bibliques, les vérités évangéliques, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? Alors peut-être dans nos premières recherches, nos premières investigations, on est cherché dans la Bible pour savoir où ça se trouvait. On les a jamais trouvés. Parce que ça n'existe pas. Et pourtant, on les présentera comme dogmes chrétiens, on les présentera comme commandements de Dieu, on les présentera comme invitations de Dieu pour obtenir des bénédictions. Peut-être se fuir l'angoisse, la mort et toutes sortes de choses qui sont pénibles naturellement à vivre. Donc c'est un avertissement. C'est l'apôtre Paul qui dit ça à Timothée, recommande de ne pas enseigner d'autres doctrines et ne pas s'attacher à des fables sans fin qui produisent des discussions. L'apôtre Paul le dit là, d'une manière, d'autres doctrines, parce que ce sont des doctrines les fables. Quand on présente Saint X ou d'autres noms, etc., qui auraient fait finalement tel mystère. Et vous savez que toutes ces histoires de fables dans le christianisme remontent au Moyen-Âge. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre qu'il y ait des siècles qui soient passés. Et puis, dans cette période de superstition, de grande peur, d'effroi même des populations, de l'ignorance des gens, la population, devant les grandes épidémies, par exemple la peste noire au Moyen-Âge, en 1300 et quelques, qui a décimé la moitié de l'Europe, il ne faut pas l'oublier, hein, et devant les guerres, devant le pouvoir féodal, devant toutes sortes de choses, alors on a alimenté. C'était, les autorités religieuses, pour capter finalement l'attention et des populations. Alors les gens venaient se réfugier devant telle ou telle proposition qui était faite, faire tel ou tel pèlerinage, apporter telle ou telle dévotion, acte de piété, etc., etc. Ça remonte au Moyen-Âge. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui, dans notre 21e siècle, où il y a quand même, il me semble, une réflexion, un développement de l'intelligence, de finalement, la connaissance, on s'aperçoit que les hommes, par rapport à ces contes et à ces légendes et à ces fables, restent toujours les mêmes. Les lieux de pèlerinage, aujourd'hui, dans notre monde, ne désemplissent pas. Je pense au pardon en Bretagne, vous savez, hein? Et puis toutes sortes de processions, toutes sortes de choses. Oui, il y avait des processions, du temps de Jésus, hein? Mais c'était pas les mêmes, hein? Ils se promenaient pas avec des oriflammes et puis avec des bandeaux, pas du tout, hein? Non, c'était autre chose. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les générations, même des jeunes, sont partie prenante dans ça et continuent finalement à croire à ces fables qui sont, moyenâgeuses. Dans 2 Timothée, on va essayer de nourrir un peu notre réflexion, dans 2 Timothée chapitre 4 et verset 4, il est dit ceci, alors, ce qui explique, verset 3, alors ou verset 2 par exemple, Paul dira à Timothée, prêche la parole. Ouais. Prêche la parole. Donc, 2 Timothée, chapitre 4, verset 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra des temps où les hommes ne supporteront plus la parole de Dieu, l'évangile, tout simple. L'évangile qui nous a été donné à travers Jésus-Christ, qui nous a été transmis par les disciples, les apôtres, ils ne supporteront plus cette sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, et moi j'y ajouterai, c'est un apport de ma part, mais des rêveries. C'est écrit dans le livre de Jude, il est dit, et des rêveries, ce sont des fables aussi, des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, des gens qui vont gamberger, et qui vont inventer toutes sortes d'histoires pour capter l'attention, pour capter la peur des gens, et puis toutes sortes d'autres choses, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est écrit troisième fois que nous le trouvons. Vers des fables. Ils préfèrent des choses à l'eau de rose, des choses qui enthousiasment, des choses qui font rêver, des choses qui, mobilisent la superstition. Parce qu'il y a toujours quelque chose derrière. Mets-toi, sois sauve en toute chose, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, ce que j'ai appelé, ce que je nomme ce soir, à l'ombre des cathédrales de l'idolâtrie. Parce que on s'aperçoit que derrière ces symboles des religions. Alors pour certains, ça sera la mosquée, pour d'autres, ça sera je ne sais pas quel temple, hein, et chez nous, dans le monde occidental, on a des cathédrales. Et on s'aperçoit que elles recèlent en arrière-plan non pas la vie de Jésus, non pas le plein évangile prêché, non pas le salut de l'âme, par la foi dans la grâce de Dieu, mais elle recèle toutes sortes de choses. Je ne sais pas si vous avez certainement, quelquefois quand vous voyagez, c'est magnifique, hein, tous ces grands monuments, il y a de l'architecture, il y a de l'histoire, et vous savez, vous avez la nef centrale, et puis de chaque côté vous avez des autels, vous savez, ils sont dédiés tous à des saints ou des saintes. Alors naturellement, avec là la possibilité de mettre un peu de lumière, parce que c'est sombre, et puis il y a toujours une petite boîte, voilà. Mais bon, je ne veux pas critiquer, parce qu'on connaît tout cela. Mais derrière, il y a tout un monde. Et je dis, c'est l'ombre tout cela. C'est l'ombre, et c'est même, je dirais que c'est plus que l'ombre, c'est les ténèbres. Je n'ai rien, et je ne veux pas critiquer, parce que nous avons fait partie de tout cela. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand on y regarde de près, on n'y fait pas toujours attention. Mais quel est le message? Est-ce que c'est le message de Jésus, ou c'est le message d'une dénomination? Est-ce que c'est le message d'une théologie ou d'une philosophie religieuse que l'on appellera chrétienne, et on lui donnera un autre nom plus spécifique, naturellement, en fonction finalement de sa position? Cathédrale d'idolâtrie. C'est pas là, finalement. Vous savez, quand Jésus a prêché quelquefois dans le temple de Jérusalem, il en est sorti. D'ailleurs, on l'a mis à la porte. Et point besoin de cathédrale, d'édifice, parce que c'est toujours quelque chose de visible. En quelque sorte, pour les populations d'une ville, d'une région, la cathédrale, c'est quelque chose qui quand même parle. Vous savez, les hommes ont fait déjà la première tentative d'une cathédrale, elle s'appelait Babel. Ça a mal tourné, hein? Ah oui. Unissons-nous et faisons une tour qui monte jusqu'au ciel pour atteindre, finalement, eh bien, un inaccessible paradis ou je ne sais pas, la présence de Dieu. Mais Babel, ça s'est terminé par une confusion. Et si nous rattachons tout cela dans tout ce qui pouvait être, parce que c'est pas une fable, hein, c'est quand même une vérité, hein, Babel. Mais néanmoins, ce que les hommes en ont fait, c'est quelque chose de terrible, hein. C'était la séparation, c'était la confusion des langues, et puis c'était un véritable fiasco, on peut dire, hein. Et à partir de Babel, eh bien, les hommes ont continué à marcher, mais pas à marcher dans les peu de révélations qu'ils avaient de Dieu, mais à se faire eux-mêmes leur propre religion. Hein, Babel, c'était véritablement quelque chose d'énorme. Hein. On en parle encore aujourd'hui. Hein. Et puis, ils se sont fait aussi une représentation fabuleuse. Enfin, ça semblait fabuleuse pour des Hébreux qui avaient quitté l'Égypte, qui avaient échappé à la férule redoutable de Pharaon, qui avaient vécu des miracles à travers les plaies d'Égypte, qui avaient passé la mer Rouge, et ça c'est prodigieux. Et voilà que quand ils se trouvent dans les airs, ils ne trouvent pas mieux, non pas de faire une cathédrale, mais un veau d'or. Là aussi, et là il y a une leçon aussi avec l'histoire du veau d'or. Hein, parce que, alors que Moïse a le dos tourné, il est parti sur le mont Sinaï, c'est même le grand prêtre d'Israël, grand prêtre, vous comprenez, c'est venu d'un grand prêtre l'initiative de se construire un veau d'or, une vache si vous voulez. Quelle représentation! C'est odieux, non? Vous ne pensez pas? Représenter Dieu par un veau, je ne vais pas répéter le mot, parce qu'il est très trivial, mais quand même. Et Aaron dira, lui, le grand prêtre d'Israël, « Voilà Israël, le Dieu qui marche devant toi, alors tu peux l'adorer. » C'était quand même assez époustouflant, une chose pareille, le veau d'or. C'est-à-dire que ce soit le veau d'or qui est l'image de l'argent, qui est l'image de ce que l'on veut faire, ce qu'on l'a lu tout à l'heure, hein. Il nous est dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, eh bien, n'habite pas dans des temples. Et oui, ce soit Babel. Alors, il y a une partie de l'humanité qui est restée dans Babel, ce sont les incrédules, hein, finalement. Hein, Dieu n'existe pas, etc. Mais ceux qui ont gardé, quelque part, un sentiment de croyance, pas de foi, c'est autre chose. Foi superstitieuse. On a fait la sacralisation des pierres, en quelque sorte. Le temple de Jérusalem n'a pas échappé, hein. Parce que finalement, les Israélites, après des siècles et des siècles, bon an, mal an, étaient devenus aussi idolâtres que les autres. Ah, il fallait pas toucher au temple. Et bien pourtant, le temple, il a descendu deux fois. Hein? Parce que finalement, ça devenait quelque chose de superstitieux. Sacralisation des pierres. Et aujourd'hui, quand on parle de l'Église, l'Église est plus importante à l'extérieur que celui qui normalement est censé d'y être à l'intérieur, c'est-à-dire la personne de Jésus. Alors on adore, on va à l'Église parce qu'on veut avoir une bonne conscience. C'est un devoir. Mais vous ne croyez pas que le Seigneur est partout, en tout, et puis dans le monde entier, dans l'univers entier. Alors cette sacralisation, eh bien, c'est perpétuel, c'est muet en religion. Des religions qui gardent un soupçon de christianisme quand même. Bon, voilà, on veut quand même avoir un petit peu quelques éléments. Alors, à travers toutes sortes de reliques, vous avez entendu parler des reliques, c'était un scandale. Et c'est encore un scandale lorsqu'aujourd'hui, eh bien là, on va dans tel ou tel édifice sacré et on vous montrera eh bien là certains trésors et tout ça. C'est le veau d'or encore. Si vous allez à Notre-Dame, à Paris, ben vous verrez qu'il y a un trésor extraordinaire. C'est de l'or, c'est des pierres précieuses, c'est toutes sortes de choses. Vous allez dans les grandes basiliques de toute l'Europe, vous verrez. Alors on vous dira, eh bien, qu'on a ramené ça du temps des croisades, etc. Alors la croix a été coupée en 10 000 morceaux, parce que c'est toujours la vraie croix. Alors elle devait être gigantesque, la croix de Jésus. Surtout que c'était un vulgaire morceau de bois, de toute façon, et qui n'a pas servi qu'à Jésus, avant et après. Et puis on a fait miroiter... Les rois ont dépensé des fortunes colossales sur le dos du peuple pour acquérir finalement ces trésors. Et on a dit, voilà, eh bien, c'est un os de tel saint, c'est un crâne. Imaginez-vous un crâne, c'est pas beau. J'ai remarqué que de plus en plus, les gens se promènent avec des crânes sur leur t-shirt et tout ça, sur leur peau, vous avez remarqué, non? C'est pas beau, non? Enfin, si vous voyez avec ça, vous dites, ah là, il a quand même... Nous, on est pour la vie, Non, c'est vrai. Et pourtant, les gens sont fiers de porter un crâne. Mais c'est quoi? C'est l'emblème de la mort. C'est terrible, cela. Alors, on a vendu cela. On a dit, voilà, s'il y a ceci, s'il y a cela, eh bien, vous aurez voilà, une bénédiction, votre vie va changer, etc., etc. Mais écoutez, et les gens le croient, ils le croient encore aujourd'hui. C'est terrible. Alors, on a parlé de sacralisation, de ceci, cela. Et moi, je voudrais quand même relire le verset qu'on a lu tout à l'heure. « Le Dieu qui a fait le monde créateur, et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il est partout, en tout, surtout. Il n'habite point dans des temples faits de main d'œuvre. Et les plus beaux édifices de l'Occident, et puis de partout dans le monde, que l'on appellera église, cathédrale, basilique, chapelle, temple, et tout ce que vous voulez, mausolée, tout ce que vous voudrez, eh bien, il n'habite pas dans des temples faits de main d'œuvre, comme si on pouvait enfermer Dieu dans une petite boîte. Vous voyez ? Alors, du temps de la tente d'assignation, d'accord ? Dieu avait donné à Salomon de faire le temple de Jérusalem. Ça, c'était la loi. Mais aujourd'hui, le Seigneur est partout. Et comme vous n'avez pas besoin, et comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Comme si Dieu avait besoin... On l'a mis dans un endroit en disant « Il est là !» Voilà, vous allez dans tel endroit. Il y a une représentation finalement eh bien, de la piété, de la religiosité, de la dévotion. Alors c'est là, c'est pas ailleurs. Enfin, si vous voulez faire le tour du monde, il y a de quoi faire, ça c'est sûr. Mais ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous sommes finalement des créatures de Dieu. Alors il est dit « Nous ne devons pas croire. » Ce que toute la Bible nous dit, « Vous devez croire. » Et là, c'est le texte peut-être unique où il nous dit « Vous ne devez pas croire. » Vous devez croire la vérité et vous ne devez pas croire le mensonge. Parce que c'est toujours le vieux mensonge qui remonte en surface de siècle en siècle, de société en société, de génération en génération, celui de Genèse chapitre 3. Dieu aurait-il réellement dit Il a dû se tromper au passage, ça c'est clair. Alors, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Il n'y a jamais eu autant de richesses que dans ce monde de la religion. Alors les rois ont des trésors, c'est vrai, il y a des palais extraordinaires. Chez nous, c'est une république mais qui ressemble plutôt à une royauté, quelque part. Non mais, voilà. Des trésors incommensurables. Mais le trésor religieux est encore beaucoup plus important. Quand on voit ce que chaque pays, soi-disant chrétien de notre Europe, lorsque nous voyons, eh bien, le palais de Rome, avec des tableaux, qui sont des tableaux aussi profanes, hein, faut pas faire d'illusions, hein, et puis toutes sortes de choses, on se dit, mais d'où vient tout cela? D'où ça vient? Et pourtant la Bible nous dit, mais il ne faut pas croire que Dieu est semblable, finalement, qu'il est servi avec des mains d'hommes, comme si ça lui faisait plaisir, vous vous rendez compte, hein, et que c'est de la pierre, c'est le plus bel art de l'âme humaine qui ressort. Mais Dieu n'a pas besoin de cela. On va le voir justement de quoi il a besoin, de quoi il s'attend. Toutes ces religions humaines, Dieu attend quelque chose d'autre. C'est pas des mortifications, c'est pas de donner son argent, indulgence ou autre chose. Non, eh bien vous le connaissez ce texte. On va le voir et vont le redécouvrir. On va lui donner quelques mots de commentaire parce que il est tellement fameux. La rencontre de Jésus avec une femme qui s'appelle la Samaritaine. Et au verset 19, il est donné cette parole. « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Tiens, un lieu encore. Hein. « Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Et Jésus va lui répondre, « Crois-moi, l'heure vient. Et où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas, que de débauche d'adoration à travers, l'esprit des hommes, les âmes qui sont captées, voire même captivées par une adoration qui n'en est pas une. À Babel, c'était l'adoration de l'homme par l'homme, sa force, son union, son triomphe d'être capable de faire quelque chose, une tour qui touche jusqu'au ciel. Le veau d'or, c'était aussi, eh bien là, ils ont été captés par l'idolâtrie, alors que finalement Dieu leur a dit, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te feras pas de représentation qui est dans le ciel, sur la terre et nulle part. Non, c'est interdit tout cela. Alors, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais c'est pas fini. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Pas besoin de représentation matérialisée, physique, d'effigie. Où là, eh bien, Dieu attend que nous nous prosternions devant cela. J'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem il y a quelque temps. Et nous avons, ça fait partie de la visite, hein, vous m'en voudrez pas, vous me pardonnerez. Je suis allé au Saint-Sépulcre. Et là, quel spectacle terrible, franchement, de la misère humaine, honnêtement. Alors il y avait la partie naturellement chrétienne, parce que il y avait toutes sortes de confessions, mais enfin en tous les cas chrétiennes. Il y avait les orthodoxes d'un côté, puis il y avait les catholiques de l'autre. Et terrible. Vraiment, ça nous a marqué, je m'en souviens encore aujourd'hui, de voir ces pauvres gens qui avaient fait pour certains des milliers de kilomètres, se prosterner devant des images. Bon, on l'a vu déjà, hein. Se mettre à plat ventre sur des lieux qui avaient soi-disant été foulés par Jésus et toutes sortes de choses, voir des malades essayer d'atteindre des effigies ou des estampes religieuses pour pouvoir être guéris. Un pauvre infirme, je m'en souviens, qui ne pouvait pas ceux qui étaient à côté de lui essayer de le hisser pour qu'il puisse toucher. Quelle détresse. Mais ils avaient cette croyance superstitieuse que si on touche, que si on s'approche, que si on baise, par exemple, un tableau ou je ne sais quelle effigie, eh bien le Seigneur va faire quelque chose. C'est vraiment des croyances qui s'appuient sur des fables et des légendes, alors que dans l'Évangile, « Allez, approche-toi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai ce que vous avez besoin. Pas besoin de faire ceci et d'aller dans tel endroit. » Jésus est communicable et rencontrable à chaque instant, à chaque moment, jour et nuit, pour toutes les détresses du monde. Pas besoin d'avoir des substituts, d'avoir des moyens qui nous sont donnés, enfin des moyens inventés naturellement. Alors, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il s'est révélé, il s'est incarné à travers la personne de Jésus, parce qu'un esprit ça se voit pas. Mais Jésus on le voit, on l'a vu. Et il nous a dit, qu'il était mort pour le péché du monde et qu'il est ressuscité et qu'il est là présent encore au milieu de nous, en esprit, en vérité. C'est ça la force, finalement, de la foi évangélique. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. Toute l'histoire du monde religieux, j'ajoute, est faite de paganisme légendaire. J'aurais prêché ça 2 ou 3 siècles auparavant. Vous pouvez me dire au revoir. Ah oui, c'est une dénonciation. Mais moi, je ne suis pas là comme un révolutionnaire qui... Non, parce que Jésus a fait exactement la même chose, hein, dans son temps pour le judaïsme, à travers finalement cette religion institutionnelle qui était, la religion des Hébreux, à ce moment-là, la religion des Juifs. Quand, vous savez, il est arrivé dans le temple, ou quand il a dit des choses, ne serait-ce que déjà par rapport à la Sainte Cène, hein, il dira, mais celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas mon corps, je peux vous dire que ça fait un scandale. Même ses disciples, ils ont dit, attends, tu peux partir, parce que nous, ça nous intéresse pas, hein, ton histoire. En esprit, en vérité. Parce que ma parole, ce n'est pas la lettre, c'est l'esprit. Les paroles que je dis sont esprit et vérité. Et ça, je crois qu'il faut le garder pour nous-mêmes. Et il faut le dire aussi, avec toutes les précautions, parce qu'on n'est pas là pour troubler les consciences des hommes, mais de leur parler de Jésus en tous les cas. Et de les ramener à Jésus devant tout ce dédale et ce labyrinthe extraordinaire de ce mélange, de cette multiplication et démultiplication. Il y a un proverbe que tout le monde connaît, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Je peux vous dire que Dieu est unique, mais les saints, ils sont nombreux. Hein. Alors, vous avez tous les noms. Hein. Vous avez même saint Alain. Hein, je crois que ça doit être le 13 septembre. Hein. Voilà, mais je serai en retraite à ce moment-là. Mais bon, toujours est-il, vous pouvez toujours me prier, hein, je réponds pas. Il n'y a personne au bout du fil. Mais c'est pour dire que tout cela, c'est du paganisme religieux légendaire offert sur des pseudo-autels de la croyance et de la superstition. Si je ne vois pas, si je ne touche pas, si je n'entends pas, oh là là, c'est terrible. C'est l'entretien de la peur alors que la foi, eh bien, consolide la paix et le repos. On est d'accord, hein? Jésus le dit, hein? Alors, il y a toute une pléiade qui est offerte, mais je vais passer très vite, hein? Parce que ça se multiplie, mais on ne trouve pas les traces dans l'évangile. C'est ça ce que je veux mettre en parallèle. Ce que nous dit la Bible et ce que nous dit les hommes, et la religion en particulier. La vie des saints canonisés. On décrète que quelqu'un, par sa vie, parce qu'il a été repéré comme ayant fait des miracles, etc., etc., même encore aujourd'hui, parce que la fonction de canoniser n'est pas terminée, hein, on le voit encore. Et qu'est-ce que l'on fait? Les autorités donnent l'autorisation aux fidèles, eh bien là, de pouvoir prier les saints. Qu'est-ce que c'est prier les saints? C'est prier pour les morts. Ouais. Jésus est mort, mais il est ressuscité, lui seul. C'est de la nécrologie, et les gens ne le savent pas. Ce sont des fables et des légendes. C'est curieux, hein, que les gens se tournent beaucoup plus vers ce genre de moyens pour obtenir la bénédiction de Dieu que de se tourner vers Jésus. Tout simplement, tout ce que vous demanderez en mon nom, à mon Père, il vous l'accordera. Mais qu'est-ce que l'on va chercher de plus? Vous savez, il y a une grande méconnaissance de la Bible aujourd'hui, de l'Évangile comme hier. Ah oui, le culte des anges, oui, dans Colossiens, Paul nous en parle. Ne vous tournez pas vers les anges pour leur demander ceci ou cela, parce que c'est véritablement une abomination. Quand on parle des anges gardiens. Ah oui? Vous avez un ange gardien? Vous savez comment il s'appelle le mien? Il s'appelle Jésus. Et c'est pas un ange, c'est Dieu. C'est bien la différence. Hein. Il y a le culte des images, on en a parlé tout à l'heure. Des statues. Autant les orthodoxes grecs et russes adorent des effigies, des tableaux. Autant nous, dans notre monde catholique, on adore des statues. Mais ça revient au même, hein, de toute façon. Voilà. Donc, ça fait partie des prières à la Vierge. Vous savez que Marie, elle est morte depuis quand même plus de 2000 ans. On a dit qu'elle était ressuscitée. J'ai essayé de chercher dans la Bible. Vous faites une petite recherche. Il n'y a rien du tout. On nous dit qu'elle est ressuscitée. Mais non! J'avais fait un voyage en Turquie il y a quelques années et on nous avait emmené au sanctuaire. Pourtant, c'est musulman, hein, la Turquie. on nous avait amené à côté de, c'était à côté d'Éphèse, dans un haut lieu qui était le petit Lourdes de l'Orient. Le Lourdes de l'Orient. Et là, il y avait des cartes qui arrivaient de tous les côtés, tout ça. Moi, je m'étais laissé embarquer dans cette affaire parce que bon, c'était un voyage organisé. Et puis, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là, hein? Alors, c'est vrai que c'était un petit peu la même chose qu'à Lourdes. Et c'était les musulmans, puis les touristes étrangers qui étaient là, qui voyaient, et qui venaient, eh bien, là, pour adorer Marie. Pour les musulmans, bon, on sait qu'elle fait partie d'un personnage aussi qui inclut le Coran, mais quand même, voilà, hein. Et on nous avait dit, voilà, c'est la maison, là, parce qu'elle a été recueillie par Jean. C'est vrai, ça, hein. On le voit dans la Bible, hein. Mais que, elle était morte, et puis après, elle est ressuscitée. Mais dis donc, on a besoin de vérifier les choses. Et les gens croient ça, simplement, parce qu'on leur a dit. Tout simplement. Alors, c'est pareil. Vous croyez pas que c'est une fable, l'institution du célibat des prêtres? C'est une fable, c'est une histoire qui est arrivée au XIe siècle, XIe et XIIe siècle pendant le Moyen-Âge. Ah, ça arrangeait tout le monde. Enfin, pas peut-être ceux auxquels on a posé, mais il y en a qui tiraient parti de cette situation. Hein. Vous rendez compte, un célibataire qui servait l'Église, pas de charge de famille, etc., etc., il était libre. Ben, moi, je me dis qu'un pasteur, il est aussi libre, hein. Même s'il a 10 enfants, ou 20, enfin bon, on peut servir le Seigneur, voilà. Et on a imposé histoire, légende, parce qu'il y avait des intérêts économiques. Et d'ailleurs, on a dit, ils seront beaucoup plus sains. Bon, on voit que quelquefois, je ne veux pas jeter la pierre, parce qu'il y a des gens qui sont tout à fait honnêtes, et des gens qui ont de la moralité parmi ces gens-là, naturellement. Mais à côté de ça, on voit les dérives qu'il peut y avoir. Je n'en dis pas plus. C'est terrible. C'est un véritable esclavage. Qu'est-ce que l'on pourrait dire? Le sacramentalisme de la religion. Vous savez que dans la Bible, il y a deux sacrements, c'est peut-être le mot. Il y a le baptême et il y a Sainte-Cène, c'est tout. Et dans l'Église que nous connaissons, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, on en a inventé, etc. Et ça, c'est pareil. Où les a-t-on trouvés? Et puis tous ces commandements, etc., etc. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul va dire ceci, au chapitre 3 et verset 17, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Ils m'adoreront en esprit, en vérité. » Vous vous souvenez, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Cette femme samaritaine qui était une païenne. Ou est-ce que c'est ici ou là? Est-ce que c'est sur le mont Garizim qui est le haut lieu des Samaritains? Ou est-ce que c'est à Jérusalem? Vous allez adorer à Jérusalem. Alors, lequel faut choisir? Eh bien, Jésus va dire l'une à l'une autre. Parce que maintenant, ceux qui me prieront, ceux qui m'adorent, ceux qui sont véritablement, eh bien, mes disciples, eh bien, ils m'adoreront en esprit, en vérité. Voilà. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, vous savez ce qu'il dit après? Là est la liberté. Là est l'affranchissement. Là est le bonheur de rencontrer Dieu et de vivre, finalement, pleinement. Et ça fait écho à ce que, tout simplement, eh bien, Jésus dira dans l'évangile de Jean, il dira, mais l'Esprit vous conduira dans toute la vérité. Eh oui. Alors, si Jésus nous conduit dans toute la vérité, il va pas se tromper. Il va pas nous tromper. Ceux qui aiment la vérité, comme Jésus le dira à Pilate, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, la vérité, c'est tout simplement de croire à ce que j'ai dit et de me faire confiance. Parce que ceux qui sont de la vérité me suivront. Ils me croiront. Et non à l'adoration de l'ignorance idolâtre qui encore court encore aujourd'hui. C'est ça la grande tristesse. Vous savez, les gens peuvent lire la Bible. Les gens peuvent ouvrir le Nouveau Testament, lire l'Évangile. Ah, quand on voit cette pesanteur, encore cet obscurantisme. Alors, pour aller vers la lumière véritable. Et la lumière véritable, eh bien, la Bible répond à ça parce que nous avons, par exemple, dans l'épître tout simplement de Jean, on connaît le texte, hein, mais simplement pour le... Écoutez bien, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, à travers ce que nous venons de dire, hein, les fables, les légendes et toutes sortes de choses, c'est du mensonge. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, il est venu, Jésus-Christ est venu, et qu'il nous a donné l'intelligence, une intelligence de la vérité, l'intelligence de l'esprit, pour connaître le véritable. C'est moi qui l'écris, hein, là devant les yeux. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Il n'y en a pas 36. C'est pas saint ceci, saint cela, etc. Non, c'est pas dans un endroit particulier. C'est Jésus tout simplement, et la finale c'est tout à fait significatif. C'est lui, nous dit Jean, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et vous savez ce qui est écrit d'une manière assez sommaire ? Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tout ça, ça correspond. Gardez-vous des idoles. Bénissons le Seigneur de ce qu'il nous a fait grâce, dans notre ignorance, de nous donner de connaître la vérité et de nous avoir arrachés, finalement, eh bien, à tout cet obscurantisme, à ce paganisme, à ces choses fabuleuses. Parce que quand on voit les miracles de Jésus, il n'y a rien qui puisse égaler les miracles de Jésus. Alors n'essayons pas de chercher finalement ce qu'il y a à côté. Puis je voudrais terminer par une petite anecdote que nous trouvons dans... pour vous dire que à quel point les apôtres ont eu affaire et ont été confrontés avec les fables, avec les légendes, avec la superstition, avec l'occultisme. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Démétrius ? Ça vous dit quelque chose, hein ? Vous ne le connaissez pas personnellement, hein ? Ben, je voudrais vous en parler. Donc, au chapitre 19, eh bien, ce fameux Démétrius, on a justement son histoire. Au chapitre donc 19, je l'ai dit, verset 24, écoutez bien ce qui s'est passé. Un nommé Démétrius, verset 24, Orphée fabriquait les temples de Diane. Eh oui, lui, il s'était mis dans les affaires religieuses, non pas comme prêtre, mais il alimentait un peu le marché en fabriquant des temples, des petites représentations de ce que pouvait être à l'époque l'adoration de cette grande déesse de la mythologie grecque, Diane, et en argent, et procurait à ses ouvriers un gain considérable, c'est-à-dire que c'était un industriel, il faisait pas, voilà, il faisait ça comme des petits pains, vous comprenez, et puis il les vendait bien, hein, et ça s'enrichissait. Et nous savons que ils n'ont pas été contents parce qu'à un moment donné, Paul est passé par là et puis il a donné un petit coup de pied dans la fourmilière, l'industrie, en disant « Mais vous adorez des choses qui sont rien du tout. Hein. » Et dans le réquisitoire, Démétrius a dit « Mais alors, écoutez, n'écoutez pas cet homme qui s'appelle Paul. C'est un juif, il est en train de casser la, comme on pourrait dire aujourd'hui, casser la baraque. Hein. » Voilà. Et ça a été une émeute. Enfin, Paul s'est retrouvé dans une situation assez difficile. Mais quand on touche à ça, vous savez, on peut toucher à Jésus, on peut toucher à son évangile, on peut brûler la Bible. Mais quand on touche à ces superstitions, les gens peuvent devenir extrêmement méchants. On le voit. Regardez par exemple dans l'islam, les représentations de Mahomet là. Et vous n'avez pas intérêt de faire un écart alors que ça ne nous concerne pas. Hein. Et puis dans toutes sortes de choses. Dans le temps, lorsque les protestants, ils n'avaient peut-être pas forcément raison, les huguenots, devant l'idolâtrie de la religiosité de l'époque, ben ils rentraient dans les églises, ils cassaient tout. Ils n'avaient pas raison de le faire, hein. Ça c'est sûr. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est que, je peux vous dire, ça s'est terminé par des massacres. On envoyait les gens en galère, on séparait les familles, et puis il y en a qui ont passé des dizaines d'années en prison, parce que finalement on touchait au sacré. Et on disait que c'était un sacrilège. Voilà. Et on massacrait les gens, parce qu'on touchait à la superstition. Le diable, il n'est pas content quand on touche à son patrimoine, hein, vous comprenez ? Alors là, ça met les gens hors d'eux, parce que c'est comme ça. Démétrius, c'était un homme qui avait compris ce que pouvait être le filon, entre guillemets, de la simonie. Vous connaissez le personnage de Simon le magicien ? C'est-à-dire, c'est trafiquer, c'est faire du commerce, c'est négocier les choses à caractère religieux. Et lui, il avait dit à un moment donné à Pierre et à Jean, je ne sais plus, oui, c'était Pierre et Jean, hein, quand ils s'étaient rencontrés là à Philippe, eh bien, si vous me donnez le pouvoir de donner le Saint-Esprit, moi, je vais vous payer. Eh oui, la simonie, c'est ça. C'est pour ça que c'est resté du nom de Simon, le magicien. Il s'était imaginé, et aujourd'hui, et depuis des temps immémoriaux, on s'imagine qu'il faut payer. Alors, les uns reviennent avec des petites statuettes, avec des colliers, avec des chapelets, avec toutes sortes de choses. C'est terrible. On ne trouve pas cet enseignement dans la Bible. C'est de la superstition, tout simplement. Ouais, c'est terrible. Hein. Parce que la simonie, elle est toujours accompagnée de la cupidité, c'est-à-dire faire de l'argent. Je ne sais pas si vous avez été à Lourdes. Moi, je fais un pèlerinage au moins deux fois par an, hein. Mais une chose qui est certaine, c'est quand vous voyez tous les magasins, que vous voyez tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui est vendable, tout ce qui est négociable, tout ce que les gens peuvent ramener, je me dis, mais est-ce que, je ne me moque pas, mais je dis, mais quelle misère et quelle pauvreté. On a la Bible, on a l'essentiel. On a Jésus-Christ. On a sa grâce. Pourquoi se rattacher? Ce sont des religions de l'Antiquité, où les Romains ou les Grecs avaient dans leur maison les petites statues qu'on appelait les pénates. Et ils se mettaient devant, ils avaient un petit foyer pour adorer, comme dans le bouddhisme d'ailleurs, hein, où ils mettaient des cierges, et ils faisaient des prières, toutes sortes de choses. C'était de la superstition, mais on s'aperçoit que dans le christianisme, tout a interpénétré finalement la religion. Ça n'a pas changé. Les choses anciennes sont toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles pour un chrétien qui croit en Jésus-Christ. C'est autre chose. On n'a plus besoin de tout cela, naturellement. Et tout cela, tout simplement, parce que on va se procurer, on nous a dit que c'était une bénédiction, tout ça pour avoir une bénédiction et puis le salut. La conclusion, c'est l'égarement spirituel. Et on le voit, on le constate. C'est terrible de voir des populations de millions et de millions de gens qui continuent, finalement, eh bien, à vivre de cette manière. C'est terrible. Ils veulent payer, ils veulent se mortifier, ils veulent se flageller encore aujourd'hui. Vous savez que dans l'hindouisme, il y a des temples où pour accéder finalement eh bien, au lieu, le haut lieu, des gens font des choses inimaginables. C'est-à-dire, au risque de leur vie, il y a un pauvre homme qui était en représentation, eh bien, il devait faire 6000 fois avant d'atteindre le... Parce qu'il y a tout un parcours, hein, vous comprenez. Il devait faire 6000 fois, se baisser, se mettre après la jante, faire un mètre et recommencer 6000 fois avant d'atteindre le... Imaginez-vous, ça vous fait des pompes, hein. Là, je peux vous dire que vous arrivez avec des biceps comme ça en arrivant en haut, hein. Excusez-moi, hein. Non, mais c'est vrai, je ne veux pas me moquer, mais je dis une chose. Je suis un petit peu comme Paul qui était furieux quand il est arrivé à Athènes. Il nous a dit qu'il a senti son esprit qui s'irritait devant toute cette abomination. Pourtant, c'était des philosophes, hein. Il aurait dû dépasser un peu la limite. Mais moi, je dis, mais c'est terrible ceux qui exploitent de telles choses, des pauvres gens. Et les gens le croient. Et le pire, c'est qu'ils le font. Alors, l'égarement spirituel, ce sera la dernière référence. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 10, c'est terrible. Hein. Verset 10, même verset 9, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ouais. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. C'est pas Dieu qui condamne, c'est la folie humaine. La manipulation de ceux qui sont au-dessus, de ceux qui en retirent de l'argent, ou en retirent de l'intérêt, ou en retirent une domination, une autorité pour manipuler les autres. C'est terrible. Faut-il que les gens puissent être éclairés, hein? Vous rendez compte, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Parce qu'ils ne peuvent pas croire à la vérité. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Et moi, je crois qu'un homme, qu'il soit d'ici, qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit un musulman, qu'il soit un chrétien de tous bords, peu importe. Mais si, véritablement, quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité, de ta vérité, mais le Seigneur va l'éclairer. C'est qu'on ne le veut pas. Et puis, il y a la pression aussi de la tradition. Il y a la pression de la communauté, il y a la pression de la famille, il y a la pression de tous ceux qui sont autour de nous. Hein. On en a fait l'expérience, hein, quand on a changé. On n'a pas changé de religion, on a changé de vie. Tout simplement. Jésus dit, j'ai paraphrasé un peu, Jésus, il, ces choses dont nous venons de parler, toutes ces légendes, toutes ces fables, toutes ces contes, toutes ces choses qui appartiennent à la religion des hommes, qui ont été faites et inventées par les hommes. Alors Jésus, en parlant des hommes, il peut dire, mais ces choses ne sont ni le chemin, ni la vérité, ni la vie, car on ne peut pas venir au Père par cela. Mais pour venir au Père, eh bien moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors à ce moment-là, on peut rentrer en communication. Et on peut recevoir le salut de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir, à travers cette réflexion toute simple, mais néanmoins, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. On va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que le sujet est ardu, c'est vrai. Le sujet, voire même peut-être dangereux. Mais Seigneur, toi-même, tu as été confronté par rapport à tous les égarements du peuple d'Israël, à travers les commandements d'hommes, à travers, Seigneur, ces Israélites qui avaient pourtant la perle de la vérité, la perle de la parole de Dieu, et qui pourtant se sont égarés dans toutes sortes de superstitions, dans toutes sortes de choses qui, eh bien, ont provoqué leur égarement, parce qu'ils n'avaient pas l'amour de la vérité. Ce qui est important, c'est d'aimer la vérité. Et la vérité, c'est Jésus qui se nomme ainsi, « Je suis la vérité ». Alors, Seigneur, tu bénis ta parole. Nous voulons, moi, je veux te prier particulièrement pour tous ces hommes et ces femmes. Moi, j'en faisais partie hier, avant de connaître Jésus. Eh bien, je veux te prier, nous voulons te prier ce soir, pour tous ces hommes qui nous environnent. Et nous croyons, Père éternel, qu'il y a des âmes à sauver, qu'il y a probablement, Seigneur, des belles âmes, mais qui sont tenues dans l'obscurantisme, dans l'ignorance du message de l'Évangile, qui sont tenues à l'écart, parce que la vérité est captive entre les mains de certains qui trouvent leur intérêt. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te prions pour ces hommes et ces femmes. Nous te prions pour ceux qui sont au soir de leur vie et qui ne connaissent pas encore Jésus, et Jésus seul. Nous te prions pour ces jeunes gens et ces jeunes filles qui sont à l'aurore de leur existence et qui là, eh bien, Père éternel, ont besoin de construire sur du solide. Non pas, Seigneur, sur la peur, non pas sur des craintes superstitieuses, non pas sur du sable mouvant, mais qui ont besoin de croire, Seigneur, sur le roc. Et Jésus est le rocher des siècles. Jésus est la vérité. Il est le chemin qui mène au salut. Et il est véritablement la vie, mais la vie de l'esprit. Et nous t'en bénissons et nous te remercions. Merci Jésus pour ta parole. Merci Seigneur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.